Il est 13h36 minutes. C'est le repêchage de la Ligue nationale demain à Vancouver. On sait déjà que le prochain repêchage va être à Montréal en 2020, mais là, on va se concentrer sur celui de cette année avec Martin McGuire, que vous connaissez évidemment parce qu'il est le descripteur des matchs canadiens sur le réseau Cogeco. Et il est à Vancouver. C'est-tu pas pratique, ça? Bonjour, Martin.
Allô, Louis.
Salut, ça va?
Ça va très bien.
Bon, alors, ça se passe comment à Vancouver? Est-ce que c'est y a une fébrilité dans l'air en ce moment, là?
Bon, c'est sûr qu'il commence à avoir une fébrilité. D'autant plus que, tu sais, ici à Vancouver, on parle de plus en plus des Canucks. Tu sais, l'équipe locale commence à revenir un peu dans les conversations parce que, et j'amène le Canadien là-dedans, Louis. C'était pas le premier sujet que je voulais aborder avec toi, mais on va changer l'ordre un peu.
C'est simple, là.
C'est que le Canadien, les Canucks, les Red Wings de Détroit, il y a quelques équipes qui ont du pouvoir d'achat actuellement. Pouvoir d'achat pour accueillir des joueurs avec des qui ont déjà des contrats. Ce sont tous des équipes qui ont des besoins. Les Canucks sont en renouvellement avec des jeunes. Le Canadien a commencé ce mouvement-là. Mais, tu sais, on prête l'intention peut-être aux Canucks, surtout, de vouloir accélérer le mouvement de rajeunissement ou encore d'amélioration de l'équipe avec cette possibilité d'accueillir des joueurs qui sont problématiques dans d'autres équipes avec leur contrat, la lourdeur de leur contrat. On prête cette intention-là. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler à Marc Bergevin dans à peu près 2 heures ici, là, à Vancouver. Il nous dira bien ce qu'il veut nous dire, mais ça va être intéressant de savoir, d'avoir des petits brides de son plan. Parce que est-ce que le Canadien est vraiment dans ces équipes-là avec Vancouver, là, qui peut prendre un raccourci en tentant une transaction pour accueillir un ou deux joueurs capables d'aider l'équipe immédiatement? Là. Mm-hmm. Alors, est-ce que le Canadien est vraiment dans ce groupe-là? On ne le sait trop. Est-ce que le Canadien est prêt à sacrifier peut-être un ou deux jeunes de son organisation pour avancer un peu plus vite? Okay.
Mais ça, Martin, ça voudrait dire, par exemple, que le Canadien pourrait dire, je sais pas, on repêche dans quel ordre?
15e.
On pourrait dire, mettons, on échange notre droit de repêchage pour aller chercher un joueur X, finalement, pour aller essayer de s'améliorer immédiatement et non pas attendre 2, 3, 4 ans avant que le joueur se développe.
Oui, puis où ce qui pourrait être fait, là, tu sais, le Canadien a une bonne banque de choix. Ils ont 11 choix, là, à cette séance-ci, Louis. Alors, tu sais, c'est peut-être pas le choix de première ronde, mais ça peut être un choix de deuxième ronde qui pourrait être troqué en retour d'un joueur qui a une problématique contractuelle dans une équipe et qui pourrait permettre aux Canadiens d'avancer un petit peu plus vite. Un prospect qui appartient peut-être déjà à l'équipe aussi. Mais ça, on connaît pas exactement toutes les lignes du plan de la direction. Mm-hmm. On n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui, mais des fois, on a des petites brides de réponses à travers ce qu'on entend dans ces points de presse.
Bon, si, mettons, on repêche 15e rang comme c'est prévu, quel joueur pourrait être convoité par le Canadien? Est-ce qu'on peut déjà entrevoir un peu de quelle façon ça va se dérouler?
C'est difficile de s'avancer sur des noms, Louis, mais on peut s'avancer sur des profils. Tu sais, un fameux défenseur gaucher capable de bien patiner, de bien bouger la rondelle, capable de prendre des minutes de jeu pour accompagner Shea Weber sur le premier duo, c'est le besoin le plus criant chez le Canadien. Et bien sûr, un joueur capable de marquer des buts, un ailier, préférablement, là, comme on dit en bon québécois, un sniper. Le Canadien a besoin de ce genre de joueur-là. Alors, il y en a un ou deux sur le marché des joueurs autonomes, mais il faut quand même mentionner, Louis, que malheureusement, les dernières années nous ont montré que les joueurs autonomes à haut profil ne placent pas Montréal en tête de leur liste. Alors, ça aussi, c'est une donnée à ne pas négliger.
OK. Et là, on fait passer des entrevues généralement à ces joueurs-là avant, hein?
Oui, absolument. Écoute, les 2 derniers jours ont été vraiment consacrés à tout ça. Il y a eu des meetings importants. Nous, ici à l'hôtel, là, il y a les Rangers, les Oilers, le Canadien, les Maple Leafs de Toronto qui sont ici, là. Alors, ces gens-là sont enfermés dans ce qu'on appelle un war room, là, et on fait passer des entrevues. Souvent, le recruteur local de la région du joueur en question on va lui parler. Les principaux prospects ont tous été déjà interviewés, mais souvent, ce qu'on a fait, là, c'est que les gars répertoriés en 3e, 4e, 5e ronde, souvent, on va les rencontrer dans la ville où se tient le repêchage, là, justement. Là, ça s'est fait avant-hier, hier également. Okay. Là, on est pas mal plus dans la touche finale au moment où on se parle, là, en vue de la première ronde demain soir, puis souvent, c'est là qu'il y a des discussions entre les directeurs généraux.
Il nous reste quelques minutes, Martin, mais j'aimerais ça que tu me parles absolument de cette histoire qui est survenue hier avec le jeune Anderson Whitehead, qui a perdu sa maman. Pour rappeler l'histoire, on l'avait vu ça en cours d'année, cette fameuse vidéo.
À Toronto.
À Toronto, exactement. Puis hier, Carey Price a fait un geste qui a ému beaucoup de monde.
C'est intéressant parce que la Ligue avait organisé ce moment-là en invitant le jeune homme. Et il y a de ça quelques semaines, on a contacté, via le Canadien, on a contacté Carey Price. La Ligue voulait avoir la présence de Price. Et Price venait juste d'arriver de vacances avec sa conjointe. Et il a accepté d'emblée de l'invitation de la Ligue de se rendre à Vegas pour ce moment-là. Et ça a été un moment encore magique, comme la première fois où il n'y avait pas beaucoup de caméras. Il y avait juste un ou deux téléphones qui filmaient, c'est tout. Puis la magie a été renouvelée hier. Pour les gens qui ne l'ont pas entendu, qui ne l'ont pas vu, Carey a commencé à parler sur une vidéo. Là, finalement, il a laissé sa place, puis il est arrivé sur scène derrière le jeune homme qui avait été invité au préalable à se rendre au micro. Puis là, le jeune homme a éclaté en larmes à nouveau. Puis Carey Price
le rassuré.
L'a consolé. Il lui a remis son chandail, puis il a dit, écoute, est-ce que tu aimerais venir au match des étoiles l'an prochain? Il dit, j'espère qu'on va pouvoir se voir là. Alors, c'était encore un beau moment. Le Canadien n'avait même pas de nomination hier, Louis. Puis ce moment-là a un peu volé le spectacle. Ouais. Je pense que le monde chez le Canadien est un peu fier de tout ça. Là.
Mais Martin, j'ai vu ces images-là. Je l'ai écouté deux fois ce matin. Là.
Ouais.
Puis Carey Price a vraiment... Il donne vraiment l'impression d'apprécier ces moments-là. J'ai l'impression que ça l'émeut pour vrai. Là.
Veux-tu que je vais te dire, Louis, c'est pas un gars qui aime les caméras, les micros, ça, j'apprends rien à personne. C'est pas un gars qui dit beaucoup de choses sur lui. Moi, je le connais depuis que le Canadien l'a repêché. Là. C'est pas un gars qui aime parler de lui. Il aime pas beaucoup l'attention médiatique. Mais depuis qu'il est un jeune père de famille, il y a quelque chose qui s'est passé chez Carey Price. Puis, je pense que sa facilité d'aller vers les enfants, ça, je vois ça depuis très longtemps, là, quand il va au-devant des enfants qui ont des chandails à faire signer. Il ne signe pas les adultes, les marchandeurs d'autographes, là, mais il signe les enfants. Et moi, je vois ça en coulisses depuis quelques années, mais de le voir comme ça sur la place publique, ça nous permet, Louis, de connaître un gars qu'on connaissait peut-être pas très bien.
Ouais,
honnêtement,
exactement.
Puis je pense que c'est très bien pour l'image même de Carey Price. Il le fait pas pour son image, parce que son image, il s'en fout un peu, là, mais évidemment, ça donne un axe de sa personnalité que les partisans du Canadien ne pouvaient pas sous-estimer peut-être même. Là.
Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon repêchage.
Ça me fait plaisir, oui.
Au revoir. Martin McGuire est descripteur des matchs du Canadien sur le réseau Cogeco. On va maintenant parler à Enrico Ciccone, qui est député maintenant, député de Marquette, et qui a déjà été une recrue dans la Ligue nationale, comme tous les joueurs d'ailleurs. Et la question qu'on voulait poser à Enrico, c'est comment ça se passe? Est-ce qu'on encadre suffisamment ces jeunes-là? Ça fait quelques années quand même qu'il est retiré, Enrico Ciccone, mais il est avec nous. Bonjour, Enrico.
Salut Louis, c'est le fun, tu me parles pas de politique aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça exactement. On ne t'attendra pas avec ça aujourd'hui. Raconte-nous ton histoire, toi. Quand tu es rentré dans la Ligue nationale, comment ça s'est passé? As-tu eu l'impression que tu étais très encadré par ton équipe? Comment ça s'est passé?
Ben quand on nous encadre pour le repêchage de la Ligue nationale, et c'est ce qui est un peu pervers dans tout ça, c'est que ça se passe à 18 ans, et souvent quand ça fonctionne pas à 18 ans, mais c'est terminé. Alors la parade passe, comme on dit, puis si t'embarques pas dans la parade, t'embarques pas dans le train, c'est terminé. Pour certains, il peut quand même y avoir espoir, parce que t'as des joueurs qui vont se développer sur le tard, et à 9, 20 ans vont même être repêchés. Qui est arrivé dans mon cas. Moi, j'ai pas été repêché la première année alors que toute ma famille était là à Montréal. Le repêchage est à Montréal.
Ouais.
L'année suivante, le repêchage est au Minnesota. Pas repêché encore, mais j'ai été repêché à l'âge de 19 ans. Et ceux qui te préparent à ça, et ceux qui, à part ton équipe, qui eux, habituellement, c'est des équipes de la Ligue majeure du Québec, qui vont veiller à ton développement. Cependant, ils veillent à ton développement, mais ils ont quand même un championnat à gagner. C'est une ligue.
C'est des adultes, là. C'est...
Oui, exactement. Mais ceci dit, ceux qui te préparent le plus au repêchage, qui t'encadrent le plus au niveau émotionnel, c'est ton équipe de soutien. C'est ton agent qui va être là. Puis c'est lui qui va travailler avec toi, justement, pour te préparer. Que ce soit au niveau des interventions que tu vas avoir avec les équipes. J'écoutais Martin un peu plus tôt qui parlait des rencontres qu'il va avoir avec des équipes, des tests psychologiques aussi à passer, des tests physiques qui vont à passer. Mais ça revient pas du ressort des équipes, mais de l'agent. Là.
Mais tu sais, Enrico, on voit des jeunes comme Kotkaniemi, Victor Mété. Oui. C'est, dans le fond, là, c'est des enfants jusqu'à un certain point.
Exact.
Et t'es lâche, lousse dans la ville avec des gros salaires quand même. Là. Bon, je comprends que les salaires recrues, c'est pas des aussi important que les grandes vedettes, mais quand même, tu peux faire beaucoup de niaiseries avec cet argent-là. Là. Alors, il me semble que ça prend un peu de maturité ou de l'encadrement.
Non, effectivement, ça prend de l'encadrement, ça prend quand même un bon suivi, puis une bonne collaboration aussi avec... Puis je veux dire, tu dois être capable, un, de faire confiance, parce qu'il faut que tu fasses confiance à quelqu'un, il faut que tu aies de la communication, puis souvent, ben c'est ton agent. C'est lui qui va s'occuper de toi, puis parce que l'agent commence pas à l'âge de 18 ans quand t'es repêché. Là. Ouais. La relation va commencer aujourd'hui, puis ce qui est pervers aussi, là, des fois ça commence à 12-13 ans, là, ce qui est pas mal trop jeune à mon goût, là, mais absolument c'est 14 ans, puis là ça commence là, puis là tu bâtis une relation, puis là t'en as des bons, puis t'en as des moins bons aux agents aussi, puis ça c'est important de le dire, puis c'est pour ça que les parents doivent faire absolument attention quand ils choisissent un agent, mais c'est sûr que tu dois avoir l'encadrement, puis quand t'as une belle relation, mais tu vas écouter ton agent. Moi, mon agent, c'était Gilles Lupien à l'époque.
Ouais.
Quand j'ai été repêché, là, écoute, j'ai pas été un choix de première ronde, j'ai pas eu un bonus à tout finir, j'ai eu un bon bonus, mais quand ça a été temps d'acheter une voiture, il m'a dit, je te donne pas plus que 8 000 $ pour acheter une voiture.
Il voulait pas que tu fasses des niaiseries non, avec, en t'achetant.
Trouve-toi une auto à 8 000 $. Simplement. Puis j'en ai trouvé une neuve. J'étais au Michigan, à Kalamazoo. J'avais 20 ans. J'aurais pu l'envoyer promener. Là. J'étais un adulte, mais j'avais tellement respect, j'avais tellement confiance en ce gars-là que c'est ce que j'ai fait. Puis il m'a toujours dit, à chaque contrat, fais comme si c'était ton dernier. Il faut que tu ramasses. Moi, j'ai écouté. Il y en a qui n'ont pas écouté. Puis ça va pas si bien que ça aujourd'hui. Là.
Merci, Enrico, d'avoir été avec nous.
Hey, merci, Lou. Fais attention à toi.
Au revoir. Bye. Enrico Ciccone est maintenant député à l'Assemblée nationale. Je le côtoie presque tous les jours. Et c'est un bonhomme fort sympathique, soit dit en passant. On s'arrête, on revient dans un instant.